VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui. Édition du mardi 16 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, nouveau report des élections législatives qui étaient prévues en novembre-décembre, cette fois à 2019.
En Côte d'Ivoire, la tension a baissé hier à Abidjan après l'officialisation de la victoire du candidat du PDCI au plateau. Incident à Grand Bassam.
Kinshasa promet des enquêtes sur, je cite, « des allégations graves » suite à l'expulsion par l'Angola de centaines de milliers de Congolais.
Réunion le 17 octobre du comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo.
Riyad s'apprêterait à reconnaître, selon les médias américains, que le journaliste Jamal Khashoggi a été tué dans un interrogatoire qui a mal tourné.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, la Cour constitutionnelle a donné un avis favorable au report des élections législatives, dont le premier tour était prévu pour le 25 novembre prochain. En outre, le mandat des députés a été prorogé jusqu'à la fin du premier semestre 2019, compte rendu de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Les députés et les potentiels candidats pour l'élection législative attendaient la suite de la Cour constitutionnelle. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a fait une saisine pour avoir l'avis de la Cour sur le report de l'élection législative. La Cour constitutionnelle, qui est le juge de la constitutionnalité des lois, cette disposition de la loi fondamentale malienne en son article 85 a été appliquée par la Cour constitutionnelle. Elle donne ainsi un avis favorable à la prorogation du mandat des députés jusqu'à la fin du premier semestre 2019 en application de l'article 85 de la Constitution. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a fondé sa demande d'avis sur des difficultés sérieuses qui compromettent le respect des dispositions de l'article 167 de la loi électorale. Pour ne pas dire les difficultés pour les candidats d'avoir des documents constitutifs pour leur candidature. Cela se comprend aisément parce qu'il y a plus de 80 jours que les magistrats maliens sont en grève illimitée. Chose qui bloque la délivrance du casier judiciaire, document incontournable pour les candidatures. C'est pour cela que la Cour constitutionnelle, en se basant sur ses arguments de l'Assemblée nationale, a jugé nécessaire de reporter la législative du 25 novembre prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, l'officialisation de la victoire du candidat du PDCI au plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, a fait baisser la tension hier. Mais il y a eu des incidents dans d'autres parties du pays, notamment à Grand Bassam. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les partisans de Jacques Ewo ont explosé de joie. La commission électorale indépendante a annoncé la victoire de leur candidat au plateau, la commune la plus riche du pays. Fabrice Savignon, soutenu par la coalition du président Ouattara, avait déjà reconnu sa défaite. Cependant, le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix contrôle la capitale économique avec ses victoires dans les communes de Koumassi, Trècheville, Yopougon et Abobo, les deux plus grands quartiers populaires. La commission électorale indépendante a aussi annoncé la victoire à Grand Bassam du RHDP, générant des troubles dans la cité balnéaire. Plus de 6 millions d'Ivoiriens étaient appelés à voter samedi à ces élections locales. Le principal enjeu était de mesurer les forces avant la présidentielle de 2020. Le PDCI, qui a soutenu Alassane Ouattara en 2010 et 2015, a claqué la porte de la coalition. Ce parti tient depuis lundi un congrès extraordinaire à Daoukro, le fief de l'ancien président Henri Konan Bédié.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la tenue d'une réunion de son comité d'urgence sur l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Des détails avec Yacouba Ouédraogo.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS, a annoncé que le comité se réunit demain 17 octobre à Genève pour déterminer si la flambée épidémique constitue une urgence de santé publique de portée internationale. L'OMS a procédé ainsi en 2014 lorsque l'épidémie d'Ebola a touché plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et en 2016 pour le virus Zika en Amérique latine. Cette sixième épidémie d'Ebola sur le sol congolais a été déclarée le 1er août à Mangina dans le nord Kivu, dans l'est de la RDC. Depuis, l'épicentre de l'épidémie s'est déplacé à Beni, une zone où les rebelles ougandais des ADF multiplient les attaques contre les civils, compliquant la riposte sanitaire. Selon les statistiques de l'OMS, le total de cas signalés s'élève à 211, dont 135 morts. D'après Oli Ilunga, ministre congolais de la Santé, un membre de la MONUSCO a pour la première fois été contaminé par le virus Ebola. Plus de 16 200 personnes ont pu être vaccinées.
La République démocratique du Congo a affirmé hier qu'elle menait des investigations sur l'expulsion massive de quelques 200 000 Congolais par l'Angola sur fond d'accusations de violence. Des allégations graves selon Kinshasa. Des détails avec Nani Talani.
Selon Lambert Mindé, porte-parole du gouvernement congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est chargé de recueillir des informations et de mener des investigations sur cette affaire d'expulsion des Congolais par l'Angola. Les allégations sont très graves. Le gouvernement réagira officiellement dans les prochains jours. Des témoignages font état d'expulsions violentes, voire de morts de Congolais, ce que l'Angola dément, parlant de retour volontaire. Dans une lettre à l'ambassadeur d'Angola à Kinshasa, une ONG, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, recommande au gouvernement angolais de faire mener une enquête crédible sur les exactions afin de faire sanctionner leurs auteurs. L'ONG demande aussi aux autorités angolaises de veiller à ce que les expulsions des immigrants se fassent dans les conditions qui respectent les droits de l'homme, notamment le droit à l'intégrité physique et à la vie. Des mesures spécifiques de protection doivent être prises en faveur des femmes, enfants et vieillards.
Plus de 40 pays africains travaillent désormais ensemble contre le terrorisme, le crime organisé et les crimes électroniques via Afripol, organisation de coopération policière du continent. C'est ce qu'a annoncé le commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine hier à Alger. Morgane Guiriec nous en dit plus.
Ce mécanisme de coopération policière de l'Union africaine possède désormais des bureaux de liaison dans 40 pays, a souligné Smaïd Chergui à l'ouverture de la deuxième assemblée générale d'Afripol, regroupant les chefs de police des États membres. Afripol va concentrer ses efforts sur la lutte contre le terrorisme, les crimes transnationaux et les crimes électroniques et signera en janvier un accord de coopération avec Interpol, a ajouté M. Chergui. Le ministre algérien de l'Intérieur, Noureddine Bédoui, a de son côté appelé à une approche africaine commune de coopération et d'échange afin de faire face aux principaux défis du continent en matière de sécurité, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue et la cybercriminalité. Afripol est destiné à favoriser l'échange de renseignements entre les polices africaines. Son siège est à Alger, où s'est tenue sa première assemblée générale l'année dernière.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Arabie saoudite s'apprêterait à reconnaître que le journaliste saoudien porté disparu, Jamal Khashoggi, a été tué au consulat de son pays à Istanbul, où il s'était rendu au début du mois, disent des médias américains. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon des sources citées par ses confrères, la mort de Khashoggi serait le résultat d'un interrogatoire qui a mal tourné. CNN News indique que ce qui était derrière cette opération pouvait avoir eu l'intention de kidnapper Jamal Khashoggi et de le ramener en Arabie Saoudite pour interrogatoire. Riyad devrait, dans son rapport, soutenir que l'opération avait été menée sans autorisation officielle et que ceux qui sont responsables de la mort de Khashoggi répondront de leurs actes. Auparavant, le président américain Donald Trump avait suggéré hier que des éléments incontrôlables pourraient avoir tué le journaliste, ajoutant que le roi Salman d'Arabie Saoudite lui avait dit dans une conversation téléphonique tout ignorer de ce qui avait pu arriver. Monsieur Trump a dépêché à Riyad son secrétaire d'État Mike Pompeo pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. Jamal Khashoggi était connu pour ses critiques contre la famille royale, le prince héritier Mohamed Ben Salman en particulier.
En Allemagne, la police a déclaré lundi soir ne pas exclure la piste d'un attentat terroriste à la suite de la prise d'otage survenue dans la gare de Cologne qui a fait au moins 2 blessés en plus de l'assaillant.
Le milliardaire américain Paul Allen, cofondateur en 1975 avec Bill Gates du géant de l'informatique Microsoft, est décédé lundi à 65 ans des suites d'un cancer, a annoncé sa famille dans un communiqué. Mon frère était une personne remarquable à tous égards, a déclaré sa sœur Jody dans une déclaration diffusée lundi par l'entreprise Vulcan, fondée par M. Allen, également connue pour ses actions philanthropiques, en particulier dans la santé.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
Le groupe Dangote Cement a lancé des travaux de construction d'une cimenterie à Keita, près de Taoua, dans l'ouest du Niger. Le coût est de 280 milliards de francs CFA. Les travaux vont durer 26 mois et comprennent également la construction d'une centrale thermique à charbon de 100 MW. L'usine aura une capacité annuelle de 2,5 millions de tonnes. La nouvelle production permettra de faire baisser le prix du ciment. Dangote Cement Niger SA va aussi mener des recherches de charbon et substances connexes sur 4 permis dans les régions d'Agadez et de Taoua. Cette société s'engage à investir dans les 3 prochaines années 2 millions de dollars sur chacun des permis et à financer également des infrastructures collectives à hauteur de 50 000 dollars par an pour chacune des zones abritant les permis. Les pays d'Afrique de l'Est ont emprunté 29,4 milliards de dollars à la Chine ces 10 dernières années. C'est pour le développement des secteurs du transport, de la communication, de la fabrication et de l'énergie. Aux États-Unis, l'enseigne Sears, inventrice de la vente par correspondance, est en faillite. Créée en 1893, elle est devenue la première chaîne de magasins de l'après-guerre, faisant son entrée en 1924 dans le très strict Dow Jones, l'indice vedette de Wall Street. Depuis 2011, Sears a perdu environ 11 milliards de dollars et les rayons sont à moitié vides malgré des promotions géantes. Il y a une décennie, l'entreprise employait un peu plus de 300 000 personnes. Aujourd'hui, il n'y a plus que 68 000 personnes.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Sensation anglaise hier en Ligue des Nations en Europe.
Ah oui, l'Angleterre qui s'est imposée en Espagne hier soir grâce notamment à un grand Harry Kane à l'origine des 3 buts anglais inscrits en première période. C'est la première fois que la Roja encaisse 3 buts à domicile lors d'un match de compétition. Nouvelle défaite de l'Islande contre la Suisse de buts à 1. La Bosnie-Herzégovine qui s'impose 2-0 à domicile contre l'Irlande du Nord. Match nul spectaculaire entre l'Estonie et la Hongrie, 3 buts partout. La Finlande qui domine la Grèce, 2-0. Match nul 0-0 entre la Biélorussie et la Moldavie. Enfin la victoire 3-0 du Luxembourg contre San Marin. Et ce soir, la suite des matchs, notamment les champions du monde français qui reçoivent l'Allemagne.
Ce mardi, on joue aussi la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019 sur le continent africain.
Oui, à cette occasion, on pourrait connaître les premiers qualifiés pour la phase finale l'été prochain. Dans le groupe A, si le Sénégal gagne au Soudan et que Madagascar bat la Guinée équatoriale, les Sénégalais et les Malgaches auront 10 points chacun et seront certains de finir aux deux premières places du groupe. Dans le groupe B, une victoire des Camerounais au Malawi, couplée à un succès des Marocains aux Comores, mettrait le Maroc sur la voie royale pour la CAN 2019. Dans le groupe C, le Mali peut compter 10 points en cas de victoire au Burundi. On se souvient qu'il y avait eu ce week-end match nul, 0 but partout entre les deux équipes à Bamako. Dans le groupe D, l'Algérie, après sa victoire 2-0 contre le Bénin, espère à nouveau battre les écureuils et compter sur un match nul entre Gambiens et Togolais. Dans le groupe E, les Sud-Africains aux Seychelles et les Nigérians face à la Libye peuvent conforter leur avance au classement. Dans le groupe F, les matchs de la Sierra Leone face au Ghana ayant été annulés, ça reste très flou dans ce groupe. Et puis dans le groupe G, les Zimbabwéens espèrent battre à nouveau la RDC et les Diables Rouges de Brazzaville pourraient perdre au Liberia, ce qui permettrait aux Warriors d'avoir un pied et demi en phase finale de la CAN. Dans le groupe H, ça va bien pour la Guinée qui figure parmi les deux premiers du groupe et qui devrait conforter cette position en cas de victoire face au Rwanda, alors que les Centrafricains devront impérativement battre les Ivoiriens. Dans le groupe I, le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie sont à égalité de points, 6 pour chaque équipe. Dans le groupe J, la Tunisie est en position idéale après avoir battu le Niger 1-0 à domicile. Les Aigles de Carthage qui espèrent rééditer cette performance à Niamey. Tandis que l'Égypte, vice-championne d'Afrique, a balayé Iswatini 4-1. On verra si ce scénario se répète au match retour. Dans le groupe K, la Guinée-Bissau a pris une petite option sur la qualification en battant le week-end dernier la Zambie. Dans le groupe L, un succès au Lesotho ne suffira pas au bonheur des Ougandais, sauf si le Cap-Vert gagne en Tanzanie.
La saison NBA repart ce soir sur le continent nord-américain.
Eh oui, les Celtics de Boston face à Philadelphie et Golden State contre Oklahoma City.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales ont été marquées par de nombreux incidents violents et contestations de résultats. Plusieurs personnes ont été blessées, par exemple, dans la nuit de dimanche à lundi à Grand Bassam, près d'Abidjan. Les habitants réclamaient la proclamation des résultats. Eric Manirak-Tidza a joint hier à Abidjan le président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la paix, Julien Fernand Gauze.
C'est vrai qu'il y a eu des morts, un à Lakota, deux à l'intérieur du pays, et puis deux à Touba, dans la zone Séguéla, pardon, et puis un autre tout récemment à Bobo. Et il y a eu aussi des actions violentes qui se sont enregistrées dans plusieurs localités. Pourquoi tout cela? Eh bien parce que la Côte d'Ivoire est toujours un peu dans cette atmosphère surchauffée qui avait prévalu en 2010-2011 et qui a conduit à la guerre post-électorale. On constate, hélas, que les institutions continuent d'être fragiles. Beaucoup d'acteurs politiques et de la société civile ont réclamé la réforme de la CEI avant les élections locales et régionales. Eh bien, on avait souhaité que cette réforme se fasse avant. Donc, de ce point de vue, la Côte d'Ivoire continue d'être un grand malade, une nation sujette à beaucoup de polémiques lorsqu'il s'agit d'élections. Et malheureusement, rien ne change.
La commission électorale n'a pas encore donné tous les résultats. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des explications?
Le pays est vaste. Les moyens de collecte des données et de remontée de l'information ne sont pas toujours à la hauteur des attentes. Et puis, autant sur les réseaux sociaux, quelques posts publiés permettent d'avoir tout de suite une idée de ce qui se passe ici et là. Autant la vérification des vrais résultats à partir de procès-verbaux des dépouillements signés par les différents partis, autant cela est un peu lent et difficile à cause des problèmes d'acheminement. Mais l'acheminement, ce ne suffit pas aussi pour justifier cela quand on voit le cas d'Abidjan, où ça aurait dû être une élection plus exemplaire. Abidjan connaît aussi ses soubresauts avec des cas de controverse d'abord à Bobwe où les réseaux sociaux avaient donné des résultats en faveur d'un candidat et puis ensuite finalement ce candidat n'a pas été celui qui a été proclamé officiellement. Ensuite à Boboga, les réseaux sociaux avaient aussi fait la même chose.
Quel est l'enjeu de ces élections régionales et municipales qui agitent autant les électeurs?
Il y a quand même la manne financière importante pour les partis que représentent les actions qu'ils prennent. La mairie de Port-Boué, selon des publications récentes, elle pèse 9 milliards de budget par an. Le plateau n'est pas très loin de là, autour de peut-être 7-8 milliards. Crodi, autour de 8-9 milliards. C'est des enjeux importants en termes de positionnement, en termes de leadership, en termes de poids électoral et en même temps des ressources financières importantes gérées. L'enjeu, c'est la préparation globale par rapport à 2020, se peser, voir ce que ça peut donner par rapport à 2020.
C'était Julien Fernand Gauze, président de l'ONG Agir pour la démocratie, la justice et la paix, joint hier à Abidjan.
Est-ce que branché sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire?
Le Burkina Faso a commémoré hier le 31e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé. Un projet de construction d'un mémorial est en vue pour rendre hommage au capitaine assassiné le 15 octobre 1987. La pose symbolique de la première pierre de la stèle devant abriter la statue de Thomas Sankara a eu lieu lundi à Ouagadougou. Lamine Traoré, notre correspondant sur place.
Sur le site du Conseil de l'Entente à Ouagadougou, c'est en ces lieux que l'ancien président, père de la révolution burkinabé, a été assassiné le 15 octobre 1987. C'est au même endroit qu'on veut ériger un mémorial pour le capitaine Sankara. Ce lundi a eu lieu la pose de la première pierre de la stèle sur laquelle doit reposer la statue géante du président Thomas Sankara et les bustes de ses 12 compagnons assassinés. Le colonel Bernard Sanou est le président du comité international mémorial Thomas Sankara.
C'est cette visibilité-là que nous avons voulu donner à ce projet-là et au site qui a été octroyé généreusement par le gouvernement burkinabé pour la réalisation de cette œuvre-là. Il faut trouver un début. Les questions fusent à gauche et à droite, c'est à quand la construction ou autre. Vous savez, ce genre de travail technique, de réalisation, prend du temps. L'occasion du mois du 31e anniversaire nous a été donnée de poser la première pierre de la stèle sur laquelle va reposer la statue géante du président Thomas Sankara et le buste justement de ses deux camarades.
Cette statue de Thomas Sankara qui sera érigée est l'œuvre de plusieurs sculpteurs burkinabés. Jean-Luc Bambara, porte-parole des artistes, explique ce que sera l'œuvre.
Le monument en hommage à Thomas Sankara est symbolisé tout simplement par une statue géante de 5 mètres en ronde bosse. C'est une statue où on peut tourner autour. Elle sera en bronze patiné, réalisée à partir de la technique de la cire perdue. La statue sera montée sur un socle en béton d'une hauteur de 3 mètres. La statue de Thomas Sankara mesure 5 mètres. Le béton sur lequel il sera installé aura une hauteur de 3 mètres. Ce serait un socle en forme pyramidale à 4 faces.
Le gouvernement burkinabé soutient le projet car Thomas Sankara demeure une icône pour la jeunesse africaine. Abdul Karim Sango, ministre de la Culture.
C'est un moment plein d'émotions que de se retrouver 31 ans après la disparition du leader de la révolution burkinabé sur ce site qui est resté longtemps fermé.
Que Thomas Sankara continue de demeurer une source d'inspiration pour la jeunesse africaine.
Cette cérémonie est la matérialisation concrète du réveil du phénix afin que tous ses héritiers à travers le monde aient un lieu de rencontre, d'inspiration de l'idéal de Thomas Sankara. Afin de continuer à oser inventer l'avenir, ont indiqué les membres du comité international mémorial Thomas Sankara. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Gambie a lancé hier sa commission Vérité, Réconciliation et Réparation, l'un des principaux engagements du président Adama Barrow après sa victoire électorale sur Yahya Jammeh. Pour une réaction, Morgan Guiriek a joint Martha Colomea, chargée de campagne pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, à Amnesty International.
Pour Amnesty International, ça c'est une bonne nouvelle. C'est un premier pas pour atteindre de la justice, de la vérité et dans quelques sens aussi de la réparation. C'est important parce que c'est un processus qui a été géré pour les gouvernements de la Gambie et aussi pour la société civile et pour la population en général. Ça va être important de documenter toutes les violations des droits de l'homme.
Qu'attend Amnesty International concrètement de cette commission?
Pour Amnesty International, cette procédure, ce n'est pas incompatible avec les processus judiciaires. Cette commission se sommet pour connaître la vérité et ce qui s'est passé. Et c'est quelque chose que les victimes ont demandé. Ils ont besoin de savoir, ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé. En même temps, il faut qu'il y ait de la justice. C'est pour ça que toutes les procédures judiciaires de tous les crimes qui ont eu lieu durant ces 22 années, c'est important qu'il y ait les enquêtes criminelles et que tous ces gens qui sont coupables vont à la justice.
Est-ce que vous pourriez nous donner une idée des exactions qui ont été commises sous le régime de Yahya Jammeh?
On parle de 22 ans de dictature, on parle de la torture. On parle de désapparitions, on parle de détentions arbitraires, on parle de violations et d'abus sexuels aux femmes. Alors, c'est très important que toutes ces violations soient documentées, que franchement tout le monde puisse savoir la réalité et la dimension des violations des droits de l'homme pendant ces années.
Mais vous pensez que aujourd'hui la Gambie a les moyens juridiques et institutionnels de traduire les coupables en justice?
la commission a un rôle de documenter, de voir ce qui s'est passé, d'écouter les victimes. Et de l'autre côté, on a les procédures judiciaires. On croit que c'est important, avant que la Gambie commence quelle procédure judiciaire, que le système qu'il y a soit prêt. Parce que c'est important aussi de demander que toutes les personnes qui vont être jugées vont avoir un judice qui soit juste. Alors, si la Gambie n'a pas cette capacité, c'est important de la trouver dans la communauté internationale.
Marta Colomea, chargée de campagne pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre à Amnesty International.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, en moyenne, 2 personnes par jour sortent guéries du centre de traitement d'Ebola dans la région de Beni, dans l'Est. L'épidémie a déjà fait 135 morts. La vaccination et la sensibilisation continuent sur le terrain, mais au centre de traitement de Beni, les guéris ne cachent pas leur joie. Reportage de l'envoyé spécial de VOA Afrique à Beni, Charlie Kasereka.
Nous sommes au centre des traitements d'Ebola à Beni. Aujourd'hui, 12 personnes guéries, désormais ex-malades, viennent d'être autorisées à sortir et elles n'arrivent toujours pas à y croire après plusieurs jours d'isolement. Parmi elles, Janine, la vingtaine, la joie est immense, difficile pour elle de s'exprimer. C'est son époux qui est venu l'accueillir et qui approche les micros de VOA Afrique pour partager sa réjouissance.
Ça fait au moins 22 jours qu'elle a fait ici. En tout cas, ça me fait vraiment une si grande joie. C'est la gratitude que j'ai vraiment vers le gouvernement congolais pour voir comment mon épouse a récupéré sa vie.
Ça sera une fête à la famille?
Oui, c'est une fête là bien organisée que je dois préparer. Je vais égorger une chèvre pour elle.
Avant de les accompagner à leur domicile, l'équipe des sensibilisateurs organise pour elle des adieux avec ce qu'ils appellent un kit de sortie. Roger Sambili, l'un des communicateurs au centre des traitements.
Moi, pour la journée d'aujourd'hui, il y a 12 qui sont sortis. Il faut aussi ajouter un autre cas confirmé qui est sorti hier. Et vous voyez, il y a aussi une pièce de pagne. À côté de ça, il y a également une belle robe que nous remettons aussi aux malades guéris. Les gens qui sortent d'ici nous servent, n'est-ce pas, des sensibilisateurs au sein de la communauté.
Pour une bonne communication et partage d'expérience, certains anciens malades reviennent au centre en tant que sensibilisateurs de terrain. C'est le cas de Masika Janine, une ex-malade, aujourd'hui dans l'équipe de mobilisation.
Tous les gens de mon village de Ndindi savent maintenant que la maladie d'Ebola existe. J'ai réussi à amener ici au centre 2 jeunes gens et une autre femme pour le prélèvement du sang. Auparavant, j'étais très méfiante et quand ma mère est morte, j'avais manipulé sa dépouille mortelle. Après 5 jours, je me suis retrouvée ici, au centre de traitement.
Une tâche difficile de convaincre tout le monde dans une région où la méfiance et les croyances bloque la riposte. Docteur Maurice de l'hôpital de Mangina explique.
Après l'annonce de cette épidémie d'Ebola, d'autres pensent que c'est une maladie démoniaque et d'autres stipulent que c'est une intoxication. Ils ont intérêt à comprendre que le virus est déjà parmi nous. Ceux qui ont discuté sont morts, mais l'important c'est seulement de respecter ce que les corps soignants exigent comme pratique.
Déclaré depuis le 1er août dernier, la maladie à virus Ebola a déjà fait au moins 130 décès sur les 111 cas signalés dans la région, avec plus de 16 000 personnes vaccinées dans la province du Nord Kivu et celle d'Ituri. Charlie Kasereka pour VOA Afrique, Beni.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des violences sexuelles et du VIH dans les zones de conflit.
Le sujet préoccupe l'ONU-SIDA qui vient de signer un protocole d'accord avec les autorités de la République centrafricaine.
Pour en parler, nous recevrons Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Il nous dira ce que prévoient ces accords.
Nous écouterons aussi le témoignage d'un déplacé de guerre et d'un médecin exerçant dans une zone de conflit en RDC. Ils nous raconteront les réalités vécues par ces personnes fuyant la guerre.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Bonjour, c'est Nathalie Barge pour vous rappeler de ne pas manquer le monde au féminin de VOA Afrique, mardi et samedi à 19h05, temps universel. Le monde au féminin. Une émission dans laquelle on aborde les questions qui concernent et préoccupent les femmes et les jeunes. Un espace réservé à tous. Le monde au féminin. Un espace qui donne la parole à celles et ceux qui osent aller de l'avant comme vous. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sudoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.